It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
I've told him I'm knowing him long. I've sold him a lemon in any day tongue. One love. One love. One love, one love. Me coming home, munu kere makun. Me coming bo, munu kere libo. Tone love, one love. Tone love. One love.
One love, voilà une invitation à l'unité et au respect entre les peuples qui ne pouvait provenir que d'un cœur pur, celui d'un artiste camerounais qui ne cesse de nous enchanter depuis le début des années 2000. Son dernier album Akko fut l'une des belles surprises de 2015. Il est fort à parier que ce succès mérité continuera de nourrir l'inspiration de notre invité du jour, le guitariste et chanteur Blik Bassi. Soyez le bienvenu.
Merci.
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 2011 pour l'album Ongo Calling. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis? Et avez-vous ressenti un changement, une évolution?
Ouais, bien sûr, pas mal de choses ont changé. Déjà, le fait que vivant dans un monde où ça va très vite désormais et où, comme des applications, comme des logiciels, on essaie de se mettre à jour. Et depuis quelques temps, j'avoue que je suis dans une démarche un peu où j'essaie juste d'être moi-même, ce qui n'est pas facile dans une société conformiste telle qu'elle est, fait que quand on arrive, on a une place qui est déjà préfaite pour nous et tout est décidé à l'avance, quoi. Ce qui est difficile quand on est artiste et quand on est humain, tout simplement, d'essayer d'être soi-même, parce que même des frères et sœurs d'une même famille, on est tous uniques. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens se battent pour effacer qui ils sont réellement. Donc j'essaye, moi, ma façon de... Tous les jours, c'est un combat qui n'est pas facile, parce que même dans notre subconscient, les choses sont déjà tronquées. Ce qu'on pense être le beau, ce qu'on pense être le bien, en fait, ça nous a été quelque part déjà imposé, quoi.
Akko, que vous nous présentez aujourd'hui, est un album empreint de sérénité et de générosité. Et pourtant, le monde dans lequel vous évoluez est profondément troublé et chaotique. Comment parvenez-vous à vous extraire de cette atmosphère pesante qui ronge nos sociétés?
Ben, la vie est pas facile, hein. Tout est complexe. Moi, j'ai grandi dans un environnement entre 11 et 16 ans. J'ai eu la chance d'avoir été envoyé au village chez moi un oncle qui m'a donné des enseignements grâce auxquels aujourd'hui je peux m'en sortir n'importe où. Et il m'a tout simplement appris à vivre dans ce monde où quelque part on survit. Il faut apprendre à survivre. Il faut apprendre à, quoi qu'il arrive, à donner le maximum de soi et surtout à être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et à partir de ce moment-là, on arrive à s'en sortir, mais surtout à passer son message. Et moi, j'essaye tout simplement de donner des vibrations d'amour, de partager ce que j'ai au plus profond de moi. Et comme je disais tout à l'heure, le fait d'être, quoi qu'il arrive, quelle que soit la direction que prend la société, d'essayer de m'arrêter et d'être qui je suis. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que, comme je dis, même autour de nous, même nos familles, quand on essaie tout simplement d'être qui on est, ça peut causer des problèmes très sérieux.
Est-ce qu'il faut se référer aux anciens pour trouver la paix intérieure?
Ben, je pense que les anciens font partie de... Tout à l'heure, je parle de référentiel, c'est que le problème de l'Afrique aussi, c'est qu'à un moment donné, on a été coupé de notre lien avec les anciens. Et l'Afrique se retrouve aussi là où elle est aujourd'hui, parce que quelque part, elle est au milieu d'un chemin où on ne sait plus d'où on est parti et devant on ne sait pas très bien où on va. Et c'est ça notre problème aujourd'hui parce que justement les anciens, ce lien-là a été non seulement coupé mais parfois complètement diabolisé. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont peur de leur village, ils ont peur de plus en plus des anciens parce que quelque part on a diabolisé et qu'on on a tout mis dans la sorcellerie et du coup au profit des grosses églises qui aujourd'hui sont presque celles qui décident de la vie quotidienne des gens, parce que les gens désormais, avant de faire quoi que ce soit, et quand ils ont une difficulté dans leur vie, ils se réfèrent au pasteur qui lui est tout simplement un businessman. Donc tout ça fait partie du fait que le lien avec les anciens, et moi dans mes chansons, j'essaie tout simplement justement de sensibiliser la nouvelle génération, de sensibiliser les parents aussi, de l'enseignement, de l'éducation, de notre histoire et de l'histoire du monde, parce que les sociétés évoluent, mais en général, il faut essayer de garder le lien parce que même, c'est comme couper le cordon ombilical qui nous lie à notre mère, à nos parents qui, qu'on le veuille ou non, ils restent nos parents, quoi.
L'une de vos inspirations pour votre nouvel album est un bluesman américain du nom de Skip James.
Ouais.
Qui était ce monsieur ?
Skip James, c'est un bluesman des années 20 aux États-Unis qui a une carrière incroyable, qui a écrit des chansons, des tubes. Pour moi, c'est le bluesman, c'est le blues même, il représente pour moi ma vision du blues, c'est vraiment à travers ses chansons. Et c'est quelqu'un qui, durant la dure période de la ségrégation, a écrit des chansons incroyables et qui est mort très pauvre dans son lit. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui me rappelle le Maury Long, qui est un vieux qui... Lorsque j'étais chez cet oncle au village où j'ai passé 6 ans, c'est un guitariste qui part d'un village en autre et faisant un concert, en fait, ce qui était la seule distraction pour ces gens-là, ces villages où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait rien et où les gens étaient d'ailleurs très heureux. Et cet homme-là, c'était la personne qui ramenait un peu de bonheur avec sa guitare et qui chantait des espèces de mélodies, des espèces de... et racontait des histoires avec son instrument. Et moi, Skip James m'a renvoyé aussi à cette enfance où des gens vivaient avec très peu, mais restaient et vivaient heureux.
C'est une photo de Skip James qui vous a inspiré ?
Absolument. En fait, le projet est parti vraiment complètement de manière hasardeuse. Moi, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais et un soir, j'avais froid, mon chauffage était en panne et je descends dans mon salon où j'ai mon home studio avec des photos sur le mur, dont les photos des gens qui m'inspirent, notamment Oumyobé, Thomas Sankara, Charlie Chaplin, Marvin Gaye, la photo de ma mère, celle de Skip James, et mon regard s'est arrêté sur Skip James. Et je regardais sa photo, je me disais, oui, c'est vrai, j'ai froid. Mais comparativement à cet incroyable artiste qui, dans les années 20, durant la dure période de sa ségrégation, est mort dans les conditions compliquées, j'ai resté un privilégié. Alors j'ai pris mon banjo, regardant la photo, je me suis mis à composer quelques titres. Au bout de quelques semaines, j'avais plus de 60 titres. Et voilà, tout est vraiment parti comme ça, rien n'était calculé. Et...
Alors parler d'une photo à la radio, c'est assez difficile. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette photo ?
Oui, c'était une photo de Skip James avec un de ses amis ainsi, Skip James avec une guitare, et les vieilles photos complètement décolorées à l'ancienne, hein, noir et blanc. Je pense tout à l'heure, je parlais de photos justement, parce que je me dis, la force qu'avait une photo avant, je ne sais plus si c'est pareil aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où une information chasse une autre, où des images font partie des informations, mais où il y en a tellement, parce que tout le monde est désormais photographe. Mais ces photos, à l'époque, qui sont des photos qui, quelque part, peuvent avoir un message incroyable. Et moi, tout est parti complètement de cette photo qui m'a captivé et qui m'a amené là aujourd'hui, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que Akko est un album de blues ?
Akko, oui. C'est ma façon de faire du blues. Hein. Le blues est un ressenti, est une intention à partir de ce moment-là. C'est à chacun de donner son intention et... Voilà, moi c'est mon intention, c'est ma façon de faire du blues, parce que je vis aussi en 2016 où non seulement on a des musiques qui nous viennent voilà des années 20, des années 30, mais aussi de la musique électronique aujourd'hui, d'autres façons de faire la musique, de concevoir la musique, d'autres façons de les enregistrer, de les conserver, de les matérialiser. Et voilà, c'est ma façon aujourd'hui, au 21e siècle, de faire la musique.
Pour que nos auditeurs comprennent le lien qui unit votre musicalité et celle de Skip James, je vous propose, Blick Bassi, d'écouter ce pionnier du blues. Enregistré en 1964, voici Crow Jane.
Crow Jane, Crow Jane, Crow Jane, don't you hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 rounds of ball. She Crow Jane just to see her fall. She got to fall. She got to.
gotta fall, you gotta. That's the reason I play crow jane, not to hold that so high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and then I dug a grave with a silver spade. Ain't nobody gonna take my crow jane play. You can't take a place. No, you can't take up. That's the reason I beg crow jane, not to hold that too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and you know I let her down with a golden chain. And every link I would call my crow jane name.
Crow Jane, Skip James en 1964, extrait de la bande originale du film The Soul of a Man, réalisé par Wim Wenders et produit par Martin Scorsese. Qu'entendez-vous, Blik Bassi, dans le jeu et la voix de Skip James?
J'entends la musique en fait de chez moi. C'est vrai. C'est la première fois que je l'ai écouté. Je me posais la question s'il chantait en anglais ou pas. J'avais vraiment l'impression sur certains titres qu'il chantait en langue africaine, quoi. En langue bantou, parce que justement, sa musique, sa manière de chanter, de faire la musique, c'est plus près des bantous que les Africains d'Afrique de l'Ouest, que du Mali, par exemple, ou du Sénégal. Lui, c'était vraiment, je pense, c'était un bantou, parce que entendre ses mélodies, sa manière de chanter, ça me rappelle non seulement Moulay Long, mais aussi Mjumson Jacob, ces vieux chanteurs camerounais des années 60, quoi. C'est vraiment la même manière de raconter. Et c'est finalement une musique qui est vraiment très proche de moi, de mon environnement, de ce que mon père écoutait, quoi.
Est-ce que le blues est nécessairement triste?
Pas toujours, il suffit de voir. En fait, le blues, il y a plusieurs blues. Il y a un mélancolique qui raconte des choses tristes, mais le gospel vient du blues. Hein. Il y a un blues qui loue le Seigneur pour ceux qui sont croyants. Il y a un blues qui raconte juste des scènes quotidiennes, d'autres qui étaient chantés pendant les chants, des moments difficiles. Et je vois encore, c'est un peu pareil ce qu'on a chez nous aujourd'hui où, je me rappelle lorsque j'étais gamin, ma mère, quand elle était au chant, elle chantait des trucs pour se motiver. Et voilà, et je pense que ça dépend vraiment de la scène et de la situation et l'intention qui va avec, quoi.
Donc votre blues n'est pas forcément entaché de douleur et de gravité comme celui des Afro-Américains?
Il est peut-être mélancolique à ma manière parce que le blues est rattaché à l'histoire de chacun aussi et chacun de nous a forcément une histoire unique. Moi, j'essaie de manière sincère de raconter mon histoire à travers ce que j'ai vécu aujourd'hui et comment je vois la société et ce que les différentes situations que je décris, que ce soit sur l'exode rural ou le fait que aujourd'hui les jeunes majoritairement quittent les villages pour aller tous dans les grandes villes où ils vivent souvent dans des conditions très difficiles en laissant derrière eux des terres, des richesses incroyables, mais comme on a l'impression qu'être riche, c'est être en ville. Donc voilà, j'ai décrit ça dans mes chansons et c'est des situations qui m'attristent un peu parce que du coup, on a l'impression, moi j'entends dire que l'Afrique est pauvre, que telle religion même se considère comme pauvre. Pourtant, ils ont des terres. Moi, je vois encore autour de moi des cousins qui ont des terres, des champs de cacao qui sont complètement abandonnés et qui vivent de manière compliquée dans les grandes villes et se considèrent comme étant des gens très pauvres. C'est finalement la notion de pauvreté, comme je disais tout à l'heure, les référentiels, des choses qu'on nous a finalement décidé que ça c'est pauvre, ça c'est riche, finalement. C'est aussi à chacun de nous faire notre travail pour ce qui a de la valeur pour nous.
Et comprendre le sens des mots.
Absolument. Ouais.
Sur votre dernier album, Akko, il y a un titre qui m'a interpellé, c'est Mout. À qui fait référence cette chanson? C'est le fameux Mout Iloun dont vous parliez tout à l'heure?
Non, mais Mout, chez nous, ça veut en langue, ça veut dire l'humain, quoi. Et dans cette chanson, justement, je parle de l'exode rural, je parle du fait que les anciens, aujourd'hui, se retrouvent tout seuls, abandonnés dans les villages, avec toutes les traditions, entre les mains, les coutumes et l'héritage, se demandant à qui est-ce qu'on le lègue, puisque vous êtes tous partis dans les villes.
Écoutons Mout, c'est comme ça que ça se dit?
Ouais.
Mout, Blik Bassi, notre invité dans l'épopée.
Sombe soli binan murata binyon kembe itini munu ikere kumba murata binyon sulu iyeni maler aningi litong lindap murata binyon bye bye beni tison bicheo on murata binyon. Yeah.
écoute un nouvel extrait de Akko, le nouvel album de Blik Bassi. Comment traduiriez-vous Akko d'ailleurs en français?
Akko, c'est en fait une petite appellation que se donnent les personnes âgées chez moi, dans mon village, chez les Bassins. C'est une petite appellation très amicale, comme ça. Quoi.
Akko,
ouais.
Mon pote.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Le 16 janvier dernier, vous étiez en première partie de l'illustre Babamal à Paris. Mm-hmm. Et vous avez insisté sur le fait de chanter justement en Bassa, mm-hmm. l'une des 260 langues du Cameroun. Pourquoi ce patrimoine linguistique s'opère?
Oui, en fait, c'est clair que si nous ne faisons rien, si chez moi on ne commence pas à enseigner ces langues au moins les plus importantes, c'est sûr que les 30 prochaines années, oui, elles vont se perdre. Sachant qu'aujourd'hui, si un Bassa pose une Bamileke ou un Ewondo, en général, leurs enfants parlent français ou anglais. Et donc, la langue se perd. Et quand on sait que derrière la langue, c'est nos traditions, c'est notre histoire. Moi, aujourd'hui, si je parlais pas le Bassa, je pourrais pas discuter avec mon grand-père. En chantant exclusivement en langue bassa, c'est ma façon à moi de sensibiliser les gouvernants de chez moi afin qu'au moins on puisse enseigner les langues les plus importantes de chez nous.
Il n'y a pas une langue dominante au Cameroun comme il peut y avoir le Wolof au Sénégal ou le Bambara au
chance.
Mali.
Ben non, on n'a pas la chance quand justement le Wolof au Sénégal, Bambara au Mali, Lingala au Congo. Non, on n'a pas eu la démarche il y a longtemps de commencer, de choisir une des langues hein, afin d'en faire une langue, première langue nationale, et puis le français et l'anglais, mais nous on a le français et l'anglais, et derrière 260 langues parlées par des tribus complètement différentes, et c'est catastrophique aujourd'hui, quand on voit, moi je vois des jeunes aujourd'hui majoritairement qui grandissent en ville, ne parlent pas la langue, mais surtout parfois il y a des parents qui en sont fiers, ça qui est grave, parce qu'on a l'impression que plus on se rapproche de l'Occident, mieux on est civilisé. On rejette l'originalité qui est un nom, ce qui est terrible.
D'où l'importance d'écouter Akko, un album chanté en bassa. Ce 16 janvier 2016, vous aviez fait le pari de jouer seul sur scène en première partie de Babamal. Mm-hmm. Est-ce que c'est un exercice difficile de captiver une salle lorsque l'on se produit en solo?
Je pense que la chance qu'on a, nous, artistes, c'est d'avoir souvent 30 minutes, 40 minutes, une heure, des gens qui nous donnent leurs énergies, qui nous donnent leur temps, qui nous ouvrent leurs portes et qui nous écoutent. Et pour moi, c'est une chance incroyable d'avoir une audience qui nous écoute. À partir du moment où on est tout simplement sincère, tout devient facile et évident. Parce qu'il suffit de parler, de dire les choses de manière sincère, de laisser parler son cœur. Maintenant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est d'autres choses. Mais quand on est sincère, tout devient presque facile. Parce que, voilà, de toute façon, on est unique. Et moi, quand je suis devant un public, j'essaie tout simplement de parler aux gens avec mon cœur de manière sincère. Et les choses deviennent plutôt évidentes, quoi.
En tout cas, pour avoir assisté à votre prestation, je peux dire que certains titres restent en mémoire, comme Mama mm-hmm. ou Tell Me. Mm-hmm. Que dit cette chanson, Tell Me?
Tell Me parle de la transmission entre les anciennes générations. C'est un de mes ancêtres qui revient et qui justement me dit, bah, dis-moi, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'il devient le monde? Comment les gens peuvent encore crever de faim aujourd'hui? Pourtant, en tant qu'humain sur la terre, tout le monde pourrait avoir à manger, à vivre. Quel est l'héritage que vous laissez aux nouvelles générations, aux générations d'après? Et je reconnais pas le monde que j'ai laissé derrière moi.
Écoutons Tell Me, Blik Bassi, notre invité dans l'épopée.
Bye.
Blik Bassi en 2016 sur l'album Akko paru chez No Format distribué par Sony Music. Blik Bassi, c'est toujours un bonheur de vous accueillir car votre propos est souvent sage et pertinent. J'ai ouï dire que vous travaillez actuellement sur un roman. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Ouais, je travaille sur un roman qui devrait sortir en fin avril 2016. J'essaie tout simplement de donner mon... ma vision de l'immigration qui pour moi est tout simplement, comme pas mal de choses, complètement erronée. Et j'essaye de sensibiliser aussi à travers ce roman les jeunes chez moi en leur disant que vous vivez dans des lieux incroyablement beaux et prenez les choses en main. Et comme c'est le cas avec la nouvelle dynamique qu'on peut voir aujourd'hui dans la musique urbaine où les jeunes n'ont pas attendu que les choses se fassent et grâce à Internet, grâce au numérique, ils ont pris les choses en main. Et quand on voit ce qui se passe... aujourd'hui, on est au début d'un cycle et je pense que ça va être terrible avec la musique, le cinéma et tout le reste.
Donc, ça sera un roman militant?
Oui, mais aussi un roman qui décrit un peu des choses. Une société où il y a beaucoup de mensonges qui, malheureusement, ne servent que des intérêts de quelques personnes. Et ce qui est dommage parce qu'il y a des gens qui meurent, quoi. Et donc, avec ce roman, j'essaie juste d'éveiller les consciences et de dire... aux générations, que ce soit des gens d'ici ou d'ailleurs, des choses qui sont évidentes. Et souvent, c'est une responsabilité quand on voit ces choses, parce que du coup, on peut prendre énormément de choses. Et avec le quotidien difficile qu'on peut avoir aussi, ou dans le monde matériel dans lequel on vit, où il faut payer son loyer, il faut régler un chien. Et quand on voit toutes ces choses-là, parfois, ça peut être lourd à apporter, mais c'est une chance de pouvoir les voir aussi, parce que ça nous permet d'avoir une démarche qui nous permet d'aller souvent à l'essentiel, quoi.
Vous avez un titre pour ce roman? On peut le dévoiler dès maintenant ou pas?
Oui, je pense que oui. Le titre, c'est Le Moabi Cinéma. Le Moabi, qui est un arbre, cinéma.
En avril?
Ouais, qui sort en avril chez l'édition Gallimard.
Eh ben, ça sera une bonne occasion de se revoir. Mais d'ici là, vous avez d'autres rendez-vous, comme le concert que vous donnerez le 6 février prochain à la Maroquinerie à Paris. Mm-hmm. Vous serez seul ou accompagné?
Je serai avec mes musiciens, avec Clément Petit au violoncelle, Johan Blanc au trombone.
Et quelques invités?
Quelques invités, ouais.
Ah, je savais bien qu'il allait se passer quelque chose. Merci beaucoup. Je précise que votre tournée se poursuivra en Allemagne, sur l'île de la Réunion, à Marseille, à Coutances pour le festival Jazz sous les pommiers, ça je vous félicite parce que c'est un très beau festival.
Merci.
Vous irez aussi en Suisse, à Kinshasa, j'ai vu, en RDC, au Danemark, en République tchèque, en Angleterre, au festival Jazz à Vienne en France, et ce jusqu'à la fin de l'été 2016 quand même. Quel programme. Vous êtes très demandé.
Ouais, j'ai la chance que l'album marche bien et en ce moment où c'est compliqué pour beaucoup de mes collègues, beaucoup de musiciens, on se sent privilégié quand on a un peu de travail, quoi.
Félicitations, Blik Bassi.
Merci.
Et revenez nous voir plus souvent ici même.
Ah, merci de m'avoir invité.
Miega, comme on dit en bassin.
Herme Miega.
Je l'ai appris il y a à peine deux secondes. Quelques autres rendez-vous à noter si vous êtes parisien. D'abord, la venue du trompettiste américain Wynton Marsalis le 4 février prochain à l'Olympia en compagnie de l'orchestre jazz du Lincoln Center de New York. Ça ne se rate pas. Manu Katché, immense batteur français, le 9 février à Colombes, près de Paris. Le pianiste cubain Omar Sosa le 13 février au musée du Quai Branly à Paris. Également le 13 février d'Abitur Touré, il sera à l'Alhambra et je terminerai avec le trompettiste Éric Truffat le 16 février à l'espace Carpeau de Courbevoie près de Paris où il présentera Donny Donny, son nouvel album Afro Jazz. La semaine prochaine, nous célébrerons un anniversaire, celui de l'Académie du Jazz qui fêtera ses 60 ans le 8 février au Théâtre du Châtelet à Paris et nous accueillerons son président, François Lacharme et l'un des piliers du département Soul Blues de cette institution, j'ai nommé Jacques Perrin qui officie depuis 40 ans pour défendre la culture noire. Merci à Nathalie Laporte pour son écoute et sa rigueur en régie finale. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
Frédéric